Histoire de la Réformation du XVIe siècle, 14-10. Philippe de Hesse. Tentation. Sa conférence avec Charles. Philippe pense au départ. Dissimulation du landgrave. Charles. Convocation. Menace de Joachim. Mécontentement de Philippe. La fuite d'Augsbourg. Découverte. Opinion de Luther. Métamorphose. La diète convoquée. Douceur inaccoutumée. Le trouble et la colère remplissaient le palais impérial, et c'était le landgrave qui les y avait mis. Ferme comme un roc au milieu de la tempête dont il était entouré, Philippe de Hesse n'avait jamais courbé la tête. Un jour, dans une assemblée publique, s'adressant aux évêques, « Seigneur, leur avait-il dit, mettez la paix dans l'Empire, nous vous le demandons. Si vous ne le faites et que je tombe, sachez que je saurai bien saisir et entraîner avec moi un ou deux d'entre vous. » On comprit qu'il fallait employer avec lui les moyens de douceur. Et l'empereur chercha à le gagner en lui laissant entrevoir des dispositions favorables à l'égard du comté de Kanzenellenbogen, pour lequel il était en différend avec le pays de Nassau et du Württemberg, qu'il réclame pour son cousin Ulrich. De ce côté, le duc, Georges de Saxe, son beau-père, l'avait assuré qu'il le ferait son héritier s'il se soumettait au pape. On le transporta, dit un chroniqueur, sur une fort haute montagne, d'où on lui montra les royaumes du monde et leur gloire. Mais le landgrave repoussa la tentation. Il avait ouï dire que l'empereur avait témoigné le désir de lui parler. Ne recevant pas de message, il se rendit de lui-même auprès de Charles Quint. L'empereur, qui avait avec lui son secrétaire, Schweiss, et l'évêque de Constance, lui représenta qu'il avait contre lui 4 griefs. Savoir d'avoir violé l'édit de Worms, de ne faire aucun cas de la messe, d'avoir, en son absence, suscité toutes sortes de révoltes, et enfin, de lui avoir fait remettre un livre où ses droits suprêmes étaient attaqués. Le landgrave s'étant justifié, l'empereur lui fit dire qu'il admettait ses réponses, sauf en ce qui regardait la foi, et l'invitait à se montrer à cet égard entièrement soumis à sa majesté. « Que diriez-vous, ajouta Charles Quint d'un ton insinuant, si je vous élevais à la dignité royale ? Mais si vous vous montrez rebelle à mes ordres, je me conduirai comme il appartient à un empereur romain. » Ces paroles indignèrent le landgrave, mais ne l'ébranlèrent pas. « Je suis dans la fleur de mon âge, répondit-il, et je ne méprise point les joies de la vie et la faveur des grands. Mais aux bien trompeurs de ce monde, je préférerai toujours la grâce ineffable de mon Dieu. » Charles Quint demeura stupéfait. Il ne pouvait comprendre Philippe. Dès lors, le landgrave avait redoublé d'efforts pour unir les adhérents de la réforme. Les villes zwingliennes sentaient que, quelle que fût l'issue de la diète, elles seraient les premières victimes, à moins que les Saxons ne leur donnassent la main. Mais c'est là ce qu'on avait de la peine à obtenir. Il ne me paraît ni utile à la chose publique, ni sûr pour la conscience, écrivait Mélenchon à Bucer, de charger nos princes de toute la haine que votre doctrine inspire. Les Strasbourgeois répondirent que la vraie cause de la haine des papistes n'était pas tant la doctrine de l'Eucharistie que celle de la justification par la foi. Nous tous qui voulons être à Christ, disait-il, nous sommes un, et nous n'avons à attendre du monde que la mort. Cela était vrai, Mais un autre motif arrêtait encore Mélenchon. Si tous les protestants s'unissaient, ils sentiraient leur force et la guerre serait inévitable. Ainsi donc, pas d'union. Le Landgrave, menacé par l'empereur et conduit par les théologiens, commençait à se demander ce qu'il faisait dans Augsbourg. La coupe était pleine. Le refus fait par Charles Quint de communiquer la réfutation romaine, si ce n'est à des conditions inadmissibles, la fit déborder. Philippe ne vit plus qu'un parti à prendre, le départ. À peine l'empereur avait-il fait connaître les conditions qu'il mettait à la communication de la réfutation, que, se rendant seul vers le comte Palatin, ministre de Charles, le vendredi 4 août, au soir, le Landgrave l'avait prié de lui procurer immédiatement une audience de sa majesté. Charles, qui ne se souciait guère de le voir, avait prétexté des affaires et renvoyé Philippe jusqu'au dimanche suivant. Mais celui-ci avait répondu qu'il ne pouvait attendre, que sa femme, dangereusement malade, le sollicitait de se rendre sans retard en S, et qu'étant l'un des plus jeunes des princes, le moindre en intelligence et inutile à Charles, il suppliait humblement sa majesté de lui permettre de partir le lendemain 6 août. L'empereur refusa. On peut comprendre les tempêtes que ce refus souleva dans l'âme de Philippe. Il sut cependant se contenir. Jamais il n'avait paru plus tranquille durant toute la journée du samedi 6 août. Il sembla ne s'occuper que d'un magnifique tournoi en l'honneur de l'empereur et de son frère Ferdinand. Il s'y préparait publiquement. Ses serviteurs allaient et venaient. Mais, sous ce bruit de chevaux et de cuirasses, Philippe cachait de tout autre dessein. Le Landgrave se comporte avec une grande modération, écrivait ce jour même 6 août Mélenchon à Luther. Il m'a dit ouvertement que, pour conserver la paix, il se soumettrait à des conditions plus dures encore que celles que l'empereur nous impose, et que tout ce qu'il pourrait accepter sans opprobre pour l'Évangile, il l'accepterait. Toutefois, Charles n'était pas tranquille. Cette demande du Landgrave le poursuivait. Tous les protestants pouvaient en faire autant, et même quitter à l'improviste Augsbourg. Le fil qu'il avait jusqu'alors tenu si habilement en ses mains allait peut-être se rompre. Il valait mieux, sans doute, être violent que ridicule. L'empereur se décida donc à porter un coup décisif. Les lecteurs, les princes, les députés sont encore dans Augsbourg. Il faut à tout prix les empêcher d'en sortir. Tels étaient, dans la nuit du 6 août, tandis que les protestants dormaient doucement, les préoccupations de Charles. Elle chassait de ses yeux le sommeil et lui faisait réveiller en hâte les conseillers d'Augsbourg et lançait dans toutes les rues ses messagers et ses soldats. Les princes protestants reposaient encore quand on vint leur apporter de la part de l'empereur l'ordre inattendu de se rendre immédiatement dans la salle du chapitre. Il était 8 heures quand ils y arrivèrent. Ils y trouvèrent les électeurs de Brandebourg et de Mayence, les ducs de Saxe, de Brunswick et de Mecklembourg, les évêques de Salzbourg, de Spire, de Strasbourg, Georges Truxès, le représentant du margrave de Bade, le comte Martin de Thing, l'abbé de Weingarten et le prévôt de Bamberg. C'était la commission nommée par Charles pour terminer cette grande affaire. Ce fut le plus décidé d'entre eux, Joachim de Brandebourg, qui prit la parole. Vous savez, dit-il aux protestants, avec quelle douceur l'empereur s'est appliqué à établir l'unité. Si quelques abus se sont glissés dans l'Église chrétienne, il est prêt à les corriger d'accord avec le pape. Mais combien les sentiments que vous avez adoptés ne sont-ils pas contraires à l'Évangile? Abandonnez donc vos erreurs. Ne vous séparez plus de l'Église et signez sans retard la réfutation. Si vous vous y refusez, alors par votre faute, que d'âmes perdues, que de sang répandu, que de pays désolés, que de troubles dans tout l'Empire. Et vous, dit-il, en se tournant vers l'électeur, votre électorat, votre vie, tout sera enlevé, et une ruine certaine fondra sur vos sujets, et jusque sur leurs femmes et sur leurs enfants. L'électeur restait immobile. En tout temps, ce langage eût été effrayant. Il l'était plus encore à cette heure que la ville se trouvait presque en état de siège. Nous comprenons maintenant, se disaient les protestants, pourquoi les gardes impériales occupent les portes de la ville. Il était évident que l'empereur voulait employer la violence. Les protestants furent unanimes. Entourés de soldats à la porte de la prison et sous les 1000 glaives de Charles, ils demeureront fermes. Toutes les menaces ne leur feront pas faire un seul pas en arrière. Cependant, il était important qu'ils pesassent leur réponse. Ils demandèrent quelques moments et se retirèrent. Se soumettre volontairement ou être soumis par force, telle était l'alternative que Charles présentait aux chrétiens évangéliques. Au moment où chacun attendait l'issue de cette lutte, dans laquelle se débattaient les destinées de la chrétienté, une nouvelle étrange vint porter au comble l'agitation des esprits. Le landgrave, au milieu des préparatifs de son tournoi, méditait la plus grave résolution. Exclu par Charles de toutes les délibérations importantes, irrité du traitement que les protestants avaient dû subir pendant cette diète, convaincu qu'il n'y avait plus pour eux aucune chance de paix, ne doutant pas que leur liberté ne courût dans Augsbourg des dangers extrêmes, ne se sentant plus capable de cacher sous l'apparence de la modération l'indignation dont son âme était remplie, d'un caractère d'ailleurs vif, prompt et résolu, Philippe s'était décidé à quitter Augsbourg et à se rendre dans ses états afin d'y agir librement et d'y servir de point d'appui à la cause de la réforme. Mais que de mystère ne fallait-il pas? Si le landgrave était pris en flagrant délit, nul doute qu'il ne fût fait prisonnier. Cette mesure audacieuse pouvait donc devenir le signal des mesures extrêmes auxquelles il voulait échapper. C'était le samedi 6 août, jour pour lequel Philippe avait demandé congé à l'empereur. Il attend que la nuit commence, puis, à 8 heures environ, caché sous un habit étranger, sans prendre congé de personne et s'entourant de toutes les précautions imaginables, il se dirige vers les portes de la ville au moment où, selon la coutume, on allait les fermer. 5 à 6 cavaliers le suivent, mais un à un et à quelque distance. Dans un moment si critique, ces hommes d'armes n'attireront-ils pas l'attention ? Philippe traverse les rues sans danger, arrive à la porte, passe d'un air indifférent au milieu des corps de garde, entre les soldats, çà et là dispersés, nul ne bouge. Tous demeurent assis nonchalamment, comme s'il n'arrivait rien d'extraordinaire. Philippe a passé et n'a point été reconnu. Ses 5 ou 6 cavaliers sortent d'eux-mêmes. Enfin les voilà tous en plein champ. Aussitôt, la petite escouade pique des deux et s'enfuit, bride abattue, loin des murailles de Charles Quint. Philippe a si bien pris ses mesures que personne encore ne soupçonne son départ. Quand, dans la nuit, Charles Quint fait occuper les portes par ses propres gardes, il croit le landgrave dans la ville. Lorsqu'on réunit les protestants le matin à 8 heures dans la salle du chapitre, les princes des deux parties s'étonnèrent un peu de l'absence de Philippe de S. Cependant, on est accoutumé à le voir faire bande à part. Il boude sans doute. Personne ne s'imagine qu'il soit déjà à 12 ou 15 lieues d'Augsbourg. Au moment où la conférence est dissoute et où chacun reprend le chemin de son logis, l'électeur de Brandebourg et les siens d'un côté, tout fier encore des paroles qu'ils ont fait entendre, l'électeur de Sarx et ses alliés de l'autre, décidés à tout sacrifier, on s'inquiète au logis du Landgraf des motifs de son absence. On insiste auprès de Salz, de Nussbaecker, de Mayer, de Schneff. À la fin, les conseillers et soi ne peuvent cacher plus longtemps leur secret. Le Landgraf, disent-ils, est retourné en Hesse. Cette nouvelle se répand à l'instant dans toute la ville et l'effraie comme l'explosion d'une mine. Charles surtout, qui se voit joué et frustré dans son attente. Charles, qui n'avait pas eu le moindre soupçon, frémit, s'indigne et s'agite. Les protestants, que le Landgrave n'a point mis dans son secret, sont aussi étonnés que les catholiques romains eux-mêmes, et craignent que ce départ inconsidéré ne soit le signal immédiat d'une terrible persécution. Il n'y eut que Luther qui, à l'instant où il apprit l'action de Philippe, l'approuva hautement et s'écria « Vraiment, tous ces délais et ces indignités ont de quoi fatiguer plus d'un Landgraf. » Le chancelier de Hesse remit à l'électeur de Saxe une lettre que son maître lui avait laissée. Philippe parlait encore, dans ce document ostensible, de la santé de sa femme. Mais il avait chargé ses ministres d'informer en particulier les lecteurs des véritables causes de son départ. Il annonçait, de plus, qu'il avait donné l'ordre à ses ministres d'assister les protestants en toutes choses et exhorter ses alliés à ne se laisser détourner en aucune manière de la parole de Dieu. Quant à moi, disait-il, je combattrai pour la parole de Dieu au prix de mes biens, de mes enfants, de mes sujets et de ma vie. L'effet du départ du Landgrave fut instantané. Une vraie révolution s'opéra dans la Diète. L'électeur de Mayence et les évêques de Franconie, proches voisins de Philippe de Hesse, croyaient déjà le voir sur leurs frontières, à la tête d'une puissante armée, et ils répondaient à l'archevêque de Salzbourg, qui s'étonnait de leur effroi, « Ah, si vous étiez à notre place, vous feriez de même. » Ferdinand, sachant les liaisons intimes de Philippe avec le duc de Wurtemberg, tremblait pour ce duché, alors usurpé par l'Autriche. Et Charles Quint, détrompé à l'égard de ses princes qu'il avait cru si timides et qu'il avait traités avec tant d'arrogance, ne doutait pas que le coup de tête de Philippe n'eût été mûrement débattu dans le conseil commun des protestants. Tous voyaient dans le départ soudain du Landgrave une déclaration de guerre. On se rappelait qu'au moment où l'on y pensait le moins, on le voyait paraître à la tête de ses soldats, sur les frontières de ses ennemis, et personne n'était prêt, personne même ne voulait l'être. On eût dit la foudre tombée au milieu de la Diète. On se répétait la nouvelle, les yeux troublés et les effarés. Tout était en émoi dans Augsbourg, et des courriers portait au loin dans toutes les directions l'étonnement et la consternation. Cet effroi changea aussitôt les ennemis de la réforme. La violence de Charles et des princes fut brisée dans cette nuit mémorable comme par un charme, et les loups furieux se trouvèrent tout à coup transformés en de doux et traitables agneaux. On était encore au dimanche matin. Charles convoque aussitôt la Diète pour l'après-midi. Le Landgrave a quitté Augsbourg, dit de la part de l'empereur le comte Frédéric. Sa Majesté se flatte que les amis mêmes du prince ont ignoré son départ. C'est sans que Sa Majesté en fût informée, et malgré sa défense expresse, que Philippe de Hesse est parti, manquant ainsi à tous ses devoirs. Il a voulu rompre la Diète. Mais l'empereur vous conjure de ne point vous laisser dérouter par lui et de concourir plutôt à l'heureuse issue de cette assemblée nationale. La gratitude de Sa Majesté vous est alors assurée. Les protestants répondirent que le départ du Landgrave avait eu lieu à leur insu, qu'ils l'avaient appris avec peine et l'eussent déconseillé. Qu'il ne doutait pas néanmoins que ce prince n'eût des raisons solides, que d'ailleurs il avait laissé ses conseillers munis de plein pouvoir, et que pour eux, ils étaient prêts à tout faire pour conclure convenablement la diète. Puis, fort de leur bon droit, et décidé à résister aux actes arbitraires de Charles, on prétend, poursuivirent-ils, que c'est à cause de nous que les portes de la ville ont été fermées. Nous prions votre majesté de révoquer cet ordre et d'empêcher qu'à l'avenir il en soit donné de semblable. Jamais Charles Quint ne fut plus mal à son aise. Il vient de parler comme un père, et on lui rappelle qu'il a agi il y a peu d'heures comme un tyran. Il fallait une défaite. Ce n'est point à votre sujet, répondit le comte Palatin, que les soldats de l'empereur occupent les portes. Gardez-vous de croire ceux qui vous le disent. Hier, il y a eu une rixe entre deux militaires. Il en est résulté un rassemblement. C'est pourquoi l'empereur a pris ses mesures. Du reste, de telles choses ne se feront plus sans que l'électeur de Saxe, en sa qualité de maréchal de l'Empire, n'en soit auparavant informé. En même temps, on donna ordre de rouvrir les portes. Rien ne coûtait maintenant au parti romain pour convaincre les protestants de son bon vouloir. Il y avait dans les paroles du comte Palatin et dans le regard de Charles une douceur inaccoutumée. Les princes du parti du pape, naguère si terrible, étaient également transformés. On les avait mis brusquement au pied du mur. S'ils voulaient la guerre, il fallait, à l'instant, la commencer. Mais ils reculaient devant cette perspective effrayante. Comment, avec l'enthousiasme qui animait les protestants, prendre les armes contre eux? Ne se plaignait-on pas universellement des abus de l'Église? Et les princes du parti romain étaient-ils sûrs de leur propre sujet? D'ailleurs, quelle serait l'issue d'une guerre si ce n'est l'accroissement de la puissance de l'empereur? Les princes catholiques romains, et les ducs de Bavière en particulier, eussent bien voulu voir Charles aux prises avec les protestants, dans l'espérance qu'il y consumerait ses forces. Mais c'était au contraire avec leurs propres soldats que l'empereur voulait attaquer les hérétiques. Dès lors, il repoussait la voie des armes aussi vivement qu'il l'avait d'abord désiré. Ainsi, tout avait changé dans Augsbourg. Le parti romain y était découragé, paralysé, annulé même. L'épée déjà tirée était remise en hâte dans le fourreau. La paix, était le cri de tous.